Bonsoir, bonsoir, c'est le moment des Amis d'Orwell sur Radio Libertaire.
C'était la patrouille de police
snooping into people's
qui fouinait en regardant à travers les fenêtres des
the
gens.
Patrols did not matter, however.
Seul comptait
only the thought police matter.
La police de la pensée.
Nos Bassaran, c'est le mot d'ordre des deux jours de mobilisation qui vont se dérouler ce week-end, samedi et dimanche, 25 et 26 mars. Ça se passe dans les Deux-Sèvres, à l'appel des collectifs Bassine Non Merci et les Soulèvements de la Terre. Plusieurs milliers de personnes sont attendues donc demain pour manifester contre ces énormes retenues d'eau destinées à une poignée d'agriculteurs. Si vous prévoyez donc de vous y rendre, eh bien restez à l'écoute. Nous diffusons ce soir le brief de la base arrière, une présentation effectuée il y a quelques jours, afin de se préparer au mieux à cette manifestation qui s'annonce très tendue. Il sera question de conseils juridiques, des armes du maintien de l'ordre, de conseils pratiques en cas de blessures physiques et psychiques. Retrouvez toutes les infos d'ailleurs sur le site bassinenonmerci.fr.
La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police.
En octobre dernier, c'était dans la commune de Sainte-Soline qu'une première manifestation s'est déroulée. Elle avait réuni environ 7000 personnes. Alors les méga-bassines sont des énormes retenues d'eau financées par de l'argent public, beaucoup d'argent public, et destinées, comme vous le savez, à irriguer des cultures intensives, notamment du maïs. Elles s'alimentent en pompant dans les nappes phréatiques, et on estime que seulement 5% des exploitations agricoles pourront en bénéficier. Chacune de ces retenues d'eau fait à peu près 10 hectares. Il y en a environ 25 déjà construites, mais des dizaines d'autres sont en chantier, principalement dans les départements de Vendée, des Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime et la Charente. Voilà pour le décor de ces projets d'aménagement destructeurs. Et en prévision donc de cette mobilisation du week-end, le collectif Bassine Non Merci a préparé le terrain en organisant il y a quelques jours une réunion en visio pour donner des conseils juridiques en cas de contrôle ou d'interpellation. Il y aura aussi un point technique sur les armes utilisées par la police, mieux les connaître pour mieux s'en protéger. Et enfin, de diffusion, une intervention des street medics et un point très important concernant le soin psy et émotionnel.
Bah, du coup, je commence, je vais introduire ce petit temps en tant que représentante du collectif Bassine Non Merci pour vous recontextualiser un petit peu le pourquoi du comment d'une base arrière qui est centrée sur le soin s'est mise en place et pourquoi aujourd'hui c'est hyper important qu'on soit nombreux et nombreuses, mais ça fait trop plaisir que vous soyez plus de 400, en tout cas c'est super important. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que donc il y a eu plusieurs temps forts cette dernière année et demie pour le collectif, et que à chaque fois ces temps forts, ça a permis beaucoup de choses, mais déjà une montée en puissance assez impressionnante de la lutte, et puis du coup de aussi apprendre à se connaître sur ces différents temps et de nous permettre d'accueillir des personnes avec qui venaient apporter leur pierre à l'édifice avec des compétences justement sur toutes les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Et il y a eu un temps fort en particulier qui a été Sainte-Soline en octobre dernier et qui donc nous a fait passer un vrai cap dans le rapport de force qu'on essaie de maintenir et de mettre en place pour porter notre lutte jusqu'au bout et jusqu'à la victoire. mais que ça s'est accompagné en fait de ben, en même temps forcément de la crainte du pouvoir, on va dire, du gouvernement qui voit ce mouvement gagner en force et en visibilité, en nombre de participants aussi. Et donc on a été confronté de manière assez rapide et exponentielle à de la répression. Ça, vous avez peut-être suivi les différents épisodes là-dessus, mais c'est vrai que entre les épisodes de surveillance qui ont permis d'éclater aussi au grand jour et de dénoncer ça, mais en tout cas de militants qui sont fortement criminalisés, surveillés, aussi de personnes qui ont subi des procès, voilà, qui ont été amenées en justice pour avoir défendu l'eau et pour avoir osé s'opposer aux bassines comme des milliers d'autres personnes. Donc face à cette répression, bah forcément, il y a eu une organisation derrière pour y répondre. Et puis, en fait, la volonté qu'on a depuis le départ, c'est que toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre et d'exprimer leur colère et leur mécontentement face à ces projets complètement absurdes puissent le faire. Et donc, on a vraiment essayé de travailler sur l'accessibilité de nos événements et des temps de lutte. Donc, pour tout type de personnes. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une base arrière qui s'est constituée autour de la garderie d'enfants, par exemple, pour que la question de la parentalité ne rentre pas en compte dans le fait de s'investir en tant que militant ou pas. Et puis aussi sur tout ce qui va être dévalidiste, dont on va vous parler. Et puis c'est tout simplement aussi un souci de cohérence. Enfin voilà, nous on est là pour des raisons à la base environnementales et puis pour voilà défendre l'agriculture paysanne, l'eau, mais aussi pour prôner un certain nombre de valeurs et pour proposer quelque chose de nouveau par rapport à un système qu'on dénonce dans sa globalité. Du coup, c'est hyper important qu'il n'y ait pas des situations de domination qui se reproduisent au sein de cette lutte-là. Donc voilà, cette base arrière, elle s'est constituée au fur et à mesure et elle s'est renforcée. Là, on attend vraiment beaucoup de monde. On a beaucoup de signaux qui nous disent qu'on va être cette fois très, très nombreux et nombreuses pour l'événement des 25 et 26 mars. Et donc, du coup, ça mobilise très fortement toute l'équipe d'organisation à tout niveau, que ce soit pour vous accueillir, donc l'équipe logistique, mais aussi donc l'équipe base arrière qui fait un boulot incroyable et qui a été vraiment avec nous sur les temps d'événement, mais aussi entre, enfin voilà, qui accompagne vraiment le collectif. Donc, merci beaucoup, c'est hyper précieux. Et encore une fois, merci à tout le monde d'être venu là pour assister à ce brief, parce que c'est vraiment en s'informant le plus possible collectivement et en apportant une attention collective à toutes ces questions de soins qu'on va réussir à être fort et à être aussi résistant face à tout ce qu'on va pouvoir nous opposer en face. Donc voilà, on est hyper déterminés, on est hyper contents que ce temps ait lieu et voilà, je vous laisse la parole pour développer.
Oh bien, merci. Du coup, l'idée là, c'est qu'on soit connectés environ à les 2 heures. On va essayer de tenir dans les 2 heures. L'idée, c'est que d'abord, potentiellement, on va vous faire un peu tout le déroulé du brief, comme disait comme on disait juste avant, la base arrière, elle est constituée de pas mal de différents groupes. Il y a notamment les médics, le soutien psy et émotionnel, l'équipe bambin et bassine pour la garderie, le dispositif Riot Fight Sexism contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi pas mal de petites choses qu'on voudrait vous ajouter, ainsi que la légale. Et donc, on va faire un peu ce petit brief qu'on fera au maximum aussi en direct sur l'événement, mais encore une fois, il va y avoir énormément de monde, ça va être très compliqué aussi d'avoir des grands moments où on pourra échanger comme là on peut le faire. Alors on sait que c'est moins bien qu'en présentiel, mais voilà, on va essayer de se passer un peu la parole là-dessus et pour commencer, du coup, je passe la main au juridique.
Merci. Du coup, pour ouvrir ce petit temps de brief, pour présenter donc une des composantes du soin de cet événement-là, et de manière générale, en tout cas pour nous, lutter contre la répression qui souhaite nous dissuader de lutter pour l'eau. Donc il y a depuis quelques actions, du coup, maintenant, depuis le printemps maraîchin, une base arrière juridique qui s'est mise en place, du coup, sur les événements, avec comme fonction première d'être en support durant l'événement, avec comme on fait en ce moment du coup un brief, donc qui a lieu aussi sur place, avec une présence notamment à l'accueil du coup de la mobilisation pour répondre aux questions et permettre d'avoir des ressources aussi pour les personnes qui le souhaiteraient par rapport aux questions bah voilà, juridiques qui pourraient nous concerner dans une mobilisation comme ça. On va revenir dessus. Faire du soutien du coup aux personnes interpellées, potentiellement du coup avoir un rôle à jouer sur les référés liberté par rapport aux arrêtés préfectoraux qui peuvent être pris de manière disproportionnée par rapport à ce que nous demandons comme droit de manifester. Voilà, puis après faire du lien avec aussi les autres composantes de la base arrière, médique ou autre du coup. Le travail du coup s'arrête pas là. Potentiellement, s'il y a des suites, en tout cas, le collectif continue d'être présent et va continuer, si les personnes le souhaitent, de soutenir, donc notamment de faire du lien avec des avocates militantes qui sont présentes pendant les actions et qui vont pouvoir du coup apporter une défense collective au procès. Donc, ce qu'on entend par défense collective, c'est de partir du constat que la répression qui cherche à dépolitiser, donc comme je disais tout à l'heure, pour criminaliser et isoler les personnes, pour leur enlever du coup le pan politique de leur action, afin de réprimer, de dissuader les autres aussi. Et donc, à quel point c'est une charge aussi collective de se prendre en charge ce soin-là, qui est un soin parmi d'autres, pour limiter notre exposition à cette répression et donc pour nous permettre d'avoir de la force pour lutter du coup pour l'eau. Un petit point du coup sur où est-ce qu'on en est de la répression un petit peu, enfin en général du coup sur les bassines, sur le côté juridique. On a pu constater qu'il y avait une répression démesurée, en tout cas sur cette lutte-là particulièrement en ce moment, depuis le début qu'elle a commencé et de plus en plus au fur et à mesure qu'elle avance, avec une politisation forte. Donc on a pu voir après l'action du 29 octobre dernier, Sainte-Soline, notre garde des Sceaux, Dupond-Moretti, qui nous sort une circulaire pour demander à tous les tribunaux de France d'avoir des chefs d'inculpation forts, du coup, contre tout type de contestation, contre des projets d'aménagement. Entendre une bassine est un projet d'aménagement. Et Darmanin qui, dans la foulée, s'est passé de parler d'éco-terrorisme, enfin de travailler cette image-là du coup de criminalisation, qui pourrait ensuite permettre de justifier la démesure de cette répression-là, qui est vraiment un travail de, aussi médiatique et politique autour de ces questions judiciaires qui, à la base, on avait appelé justice, en tout cas dans nos institutions. Pour vous donner un petit peu les différents dossiers du coup qu'on a eu depuis le début de cette lutte-là, on a jusqu'à aujourd'hui du coup eu trois procès qui ont été l'occasion pour nous de continuer, d'avoir une continuité dans les actions dans la rue du coup face aux tribunaux, où on a pu avoir du coup au travers de ces moments-là un espace pour réapporter une politisation. Donc assez tentative de répression avec autant à l'intérieur du tribunal l'intervention de juristes du coup qui redonne un petit peu le contexte et c'est une désobéissance militante des faucheurs volontaires sur la désobéissance civile aux paysans locaux à l'extérieur du coup de la course de tracteurs de mini tracteurs devant le tribunal au débâchage d'une mini bassine symbolique pour montrer que nous étions toutes et tous du coup aussi présents ce jour-là et responsables aussi de ce qui s'est passé et en passant du coup par un tribunal du coup populaire des animaux contre la FNSEA et les 40 voleurs qui était du coup l'occasion de réapporter un jugement de du coup les véritables responsables de la question des bassines et donc du coup une procession, enfin qui était sur une procession de la honte avec du coup ces 40 voleurs qui avaient leur bassine sur la tête pour expurger un petit peu leur méfait. Pour donner du coup à chaque fois ce qui pouvait être reproché dans ces dossiers-là, c'était couramment du coup après Sainte-Soline des personnes auxquelles on a reproché de participer à la mobilisation en vue de permettre des dégradations. Et d'autres où c'était des sur les actions notamment de septembre du coup 2021, d'avoir dégradé une pelleteuse à l'époque de des jets de pierre ou d'avoir débâché la bassine de Cranchaban le 6 novembre 2021 aussi. En termes de risque du coup qui peut y avoir, un petit point avant de rentrer dans le détail des conseils pratiques. Le contexte donc dans lequel on a été à Sainte-Soline en octobre dernier et dans lequel on va se retrouver du coup le week-end prochain, ça va être la tentative de la préfecture de bloquer la mobilisation avec des arrêtés préfectoraux et donc qui vont être sur plusieurs niveaux. On aura à partir de ce vendredi du coup 20h à dimanche 20h une interdiction de manifestation et d'attroupement dans une certaine zone qui est grosso modo les zones que nous avions pour la manifestation du coup de Sainte-Soline et de qui concernait à la fois Sainte-Soline et Mosée-sur-le-Mignon. Et donc là, pour l'instant, c'est ces mêmes zones-là. On attend encore du coup l'arrêté d'interdiction de circuler, qui est pas la même chose. L'interdiction de manifestation et d'attroupement concerne des personnes qui seraient du coup attroupées ensemble dans la zone, par exemple, pour rejoindre les cortèges. Là où la circulation concerne du coup les véhicules et les conducteurs qui utilisent les véhicules. Et donc qui va tomber, il sera certainement sur les mêmes créneaux, mêmes zones, mais on attend encore de voir et on vous tiendra au courant en tout cas pour ça dès qu'on aura les infos. Et une deuxième vitesse, un deuxième niveau pour les arrêtés qui commence demain matin à 8h et qui prendra fin du coup lundi prochain à 20h. Qui est l'interdiction de port et de transport d'armes, de vente, transport et utilisation d'artifices, de divertissement, de carburant, d'acide ou de produits inflammables. Et donc voilà, c'est des outils pour tenter de freiner notre organisation, freiner la lutte. Et donc le risque par rapport à ça, c'est 135 € d'amende. La dernière fois à Sainte-Soline, il y avait c'est pas forcément automatique. Le contrôle d'identité, en tout cas sur place, avait pas forcément amené une amende. Il y avait aussi la possibilité de contester et qui avait fonctionné du coup pour une certaine personne, pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas c'est quelque chose qui est possible. Et donc voilà, ça fait partie en tout cas des choses où pour l'instant il y aura pas le besoin d'arriver de manière isolée sur place pour l'action. Mais qui pourront faire partie des risques. Un deuxième risque, du coup, dont je parlais tout à l'heure pour les procès, notamment, donc, qui ont lieu le 28 novembre dernier, pour Sainte-Soline, du coup, 5 personnes qui avaient été interpellées à Sainte-Soline, dont un blessé qui avait été accueilli à la sortie de l'hôpital, et qui est donc l'attroupement en vue de commettre des dégradations ou des violences. Et donc, sur ce point en particulier, donc, il peut nous concerner en tant que participantes à cette mobilisation dans la zone. En gros, leur discours, c'est-à-dire que parce qu'on a passé des lignes de police, on était consciente qu'il y avait cette volonté de dégradation. Et les condamnations que nous avons eues, il y a quelques jours, du tribunal de La Rochelle, c'est qu'on peut arriver, du coup, à des amendes. Du coup, à 200-300 à 500. Là.
Les amis d'Orwell diffusent ce soir le brief de la base arrière, organisé par le collectif Bassine Non Merci, en prévision des actions prévues ce week-end à Mel, dans le Marais Poitevin.
Et je vais repasser du coup la parole pour le détail un petit peu plus des conseils pratiques sur place.
Ouais, merci beaucoup. Je prends la suite, mais n'hésitez pas à compléter. Tout d'abord, on a assisté beaucoup à des fouilles de véhicules. Sachez que il est fort probable que quand vous arriviez proche de la zone, il y ait des fouilles de véhicules. Ça a été le cas lors d'autres événements de bassine. Ces fouilles de véhicules, malheureusement, peuvent être légales, avec notamment des réquisitions du procureur que vous pouvez demander à voir. Nous, on ne conseille pas forcément de demander absolument à voir ces réquisitions-là, mais il est fort probable qu'elles existent et qu'ils les aient. S'ils ne les ont pas, ils ne sont pas autorisés à fouiller votre véhicule et du coup, potentiellement, voilà, ça peut aussi stopper la fouille que de les demander, mais potentiellement, ils les ont et ça peut aussi faire monter les tensions. Donc, je pense qu'on en appelle aussi à votre à votre feeling à ce moment-là pour savoir si vous voulez ou non demander à voir ces réquisitions. Mais sachez que voilà, légalement, ils sont obligés de vous les montrer. Si vous avez l'occasion d'en voir une, n'hésitez pas à les prendre en photo, à les envoyer à la base arrière juridique dont on va vous redonner le numéro en fin de ce brief avec toutes les choses à bien avoir en tête. Il y aura un numéro du coup que vous pourrez tenir au courant s'il y se passe quoi que ce soit au niveau juridique. Ce sera le numéro de la légale. Du coup, ces réquisitions-là, une fois qu'elles existent, et ils ont le droit de fouiller votre véhicule probablement ça s'est déjà passé, il y a une possibilité pour qu'ils saisissent certains objets, notamment sur certaines actions, il y a eu des saisies de tous les couteaux, de vannes par exemple, dans le sens où pour eux c'était des objets vont être des armes par destination ou des objets dangereux. Voilà, ces saisies-là, elles sont possibles, surtout dans le cadre de ces arrêtés. Alors sachez que ces arrêtés, on va tenter de les attaquer comme ça s'est passé plusieurs fois, mais potentiellement ça ne va pas marcher. En tout cas, c'est des personnes qui vont tenter de faire ça. Je suis désolée, on est un peu rapide sur tous les points. Potentiellement, on pourra aussi voir avec les questions à la fin pour tous les détails. Je vois qu'il y en a plusieurs. Sur le téléphone portable, et là on touche à un sujet assez sensible, vous savez que votre téléphone portable borne, c'est-à-dire que quand vous vous déplacez, il est possible de savoir que ce numéro était à tel endroit, ou en tout cas dans une certaine zone géographique. Du coup, il y a plusieurs choses qui peuvent être prudentes à faire, notamment avoir un téléphone portable juste pour l'occasion, par exemple. Ça peut être une manière aussi de dissocier votre numéro personnel du numéro que vous aurez à ce moment-là sur le lieu. Et vous pouvez aussi tout simplement ne pas prendre votre téléphone portable. Sachez néanmoins que sur toutes les infos, afin d'arriver et de rejoindre les départs de manifestations, elles sont transmises via l'infoline, qui est un numéro que vous pouvez appeler, sur lequel vous tomberez sur un répondeur pour avoir des informations, mais aussi un fil, c'est-à-dire une discussion que vous pouvez retrouver dans Telegram. Vous pouvez trouver le lien de cette infoline sur les sites de Bassine Non Merci et des Soulèvements de la Terre, ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Si vous vous abonnez à cette boucle, vous aurez les informations en temps réel. Du coup, à la fois, prendre son portable, c'est toujours évidemment risqué. Vous êtes repéré si c'est votre numéro habituel, etc. Et en dehors de ça, c'est potentiellement une bonne chose d'avoir au moins un portable par véhicule ou par convoi afin d'avoir les informations en temps réel. Néanmoins, dans le cas où vous auriez votre portable, on vous invite très fortement à ne pas le prendre, par exemple, pour les moments de manifestation ou à bien le nettoyer, c'est-à-dire enlever toutes les conversations qui pourraient être gênantes ou problématiques en cas d'arrestation et de saisie de votre téléphone. Voilà, le téléphone portable, c'est toujours à la fois quelque chose de pratique et à la fois quelque chose qui nous met un peu en danger. Un téléphone éteint, normalement, ne borne pas, non. On y reviendra avec toutes ces questions-là. On n'a malheureusement pas le temps d'entrer dans chaque détail de chaque point. Sachez que sur les téléphones, il y a des supports aussi qui sont très bien et accessibles sur Internet, notamment sur des sites comme le site de l'InfoKiosque. Vous pouvez trouver plein de détails sur la téléphonie mobile. Donc, n'hésitez pas à creuser certaines parties si vous avez beaucoup de questions, si ça vous intéresse. Sur le contrôle d'identité, il est fort probable qu'il y ait beaucoup de contrôles d'identité qui vont se faire aux abords du site ou même typiquement lors d'un contrôle de quand vous êtes au volant d'un véhicule. Sur les contrôles d'identité, sachez que vous n'êtes obligé de déclarer que votre petite identité et seulement votre petite identité, c'est-à-dire nom, prénom, date, lieu de naissance et votre adresse, voire le nom et prénom de vos parents si vous avez des homonymes, c'est-à-dire si vous avez un prénom et un nom particulièrement courant, si vous appelez Jacques Durand par exemple, on va vous demander le nom et prénom de vos parents très probablement. Ne pas déclarer sa petite identité est un délit. Vous pouvez notamment être retenu 4 heures pendant un contrôle d'identité. On va chercher par tous les moyens à avoir votre identité. Donc vous pouvez refuser de déclarer cette petite identité, néanmoins vous exposez à des risques supplémentaires et je pense qu'il faut l'avoir bien en tête. De la même façon, on n'a pas posé la question en début de ce brief, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne sont pas de nationalité française ici, sachez qu'on va avoir aussi des briefs au moins à l'écrit, on aura des personnes sur place pour répondre à des questions en langue étrangère. Donc n'hésitez pas, et sur les personnes qui ne seraient pas de nationalité française, sachez que aussi ne pas déclarer votre identité vous expose encore plus à de la possible notamment rétention administrative. En dehors de cette petite identité, j'y reviens, vous n'avez rien à déclarer. L'idée, c'est de ne pas donner quelconque information de plus. En fait, vous n'êtes pas obligé de donner une quelconque information de plus. C'est vraiment, ça se restreint. Les obligations légales quant à ce que vous déclarez à la police se restreignent à votre petite identité. Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse. Imaginons ensuite dans un cas un peu plus problématique où vous seriez emmené en garde à vue. On va partir sur un petit brief sur la garde à vue. Sachez aussi qu'il y a énormément de documents sur la garde à vue. On l'a pas mentionné, mais il y a un livret aussi qui a été fait par la base arrière. Vous avez tout le brief dessus. Sur la garde à vue, vous avez des détails que vous pouvez aussi trouver sur le site de l'Infocus, par exemple. Mais du coup, la garde à vue, votre première période de garde à vue, elle peut être de 24 heures. Sachez que le contrôle d'identité, si vous êtes emmené au poste pour un contrôle d'identité, ça peut durer 4 heures et ça comptera dans ces 24 heures de garde à vue s'il est prolongé. C'est-à-dire qu'à l'issue de votre contrôle d'identité, on vous place en garde à vue. Il y a les 4 heures de contrôle d'identité et du coup, ça fait que 20 heures pour votre première période de garde à vue. Une fois que vous êtes en garde à vue, vous avez des droits qui s'offre à vous, notamment le fait de contacter un proche. Sachez que cette histoire des proches, elle est essentielle. C'est notamment à ce proche que vous aurez donné des garanties de représentation. On va revenir sur ce que sont les garanties de représentation et à quel point c'est important. Mais ce proche-là, vous devez connaître son numéro par cœur. C'est pas forcément vous qui allez l'appeler. La plupart du temps, c'est les flics qui appellent, c'est pas vous. Malheureusement, parfois, il y a des exceptions. Hein, je dis pas le contraire, mais il faut pas partir de ce principe-là. Et il faudrait que ce proche, il ait aussi le numéro de la base arrière juridique. On va vous redonner ce numéro. Mais voilà, ce proche-là, le fait qu'il ait le numéro de la base arrière juridique, ça nous permet ensuite, nous, sur le camp, aux personnes qui font partie de la légale, de cette base arrière juridique, d'être au courant, et à toute l'organisation de l'événement, d'être au courant aussi des personnes qui sont en garde à vue, et donc potentiellement d'organiser aussi des comités de soutien devant ces gardes à vue-là. Ce proche, c'est bien aussi s'il arrive à demander dans quel commissariat vous êtes pour ensuite pouvoir transmettre l'information. Vous avez aussi le droit à avoir un médecin quand vous êtes placé en garde à vue. Sachez que le médecin, il est soumis au secret médical concernant votre dossier médical, mais que par contre, il faut rien lui dire de plus. Le reste du temps, le médecin n'est pas notre ami, le médecin peut absolument tout raconter ce que vous lui dites. Sachez que si vous prenez des médicaments, il faut avoir à la fois sur vous l'ordonnance et les médicaments pour être sûr et certain. De pouvoir y avoir accès. Et encore une fois, c'est la garde à vue, c'est les flics, vous n'êtes pas sûr de pouvoir accéder à ces médicaments. Parfois, c'est vraiment une guerre d'avoir accès à ces médicaments alors qu'on a et l'ordonnance et les médicaments avec nous. Donc, ça peut être quelque chose de très dur. Vous avez le droit, normalement, de faire prévenir votre employeur ou votre employeuse. C'est quelque chose, normalement, qui est possible. Ce droit-là passe souvent à la trappe, sachez-le quand même. Mais c'est un autre appel auquel vous avez le droit. Et vous avez le droit aussi de faire prévenir de demander votre avocat ou votre avocate. Si votre garde à vue se passe, si vous êtes stressé, si votre garde à vue se passe mal, ou même si vous avez l'impression d'avoir absolument besoin pour vous soutenir dans ce moment, de prévenir les avocates, n'hésitez pas. Les avocates sur l'action, il y en a deux. Il y a Colline Bouillon du barreau de Créteil et Chloé Chalot du barreau de Rouen. Pareil, ces deux noms-là, on va vous les distribuer, on va vous les répéter 1000 fois sur le camp. Les personnes qui seront là-bas vous diront tout ça 1000 fois. Et pareil, tout ça existe aussi dans le livret de la base arrière. Vous allez trouver ces noms, prénoms et barreaux. Il n'y a pas besoin d'avoir les numéros des avocates. Ils ont un grand livre avec un grand site avec tous les avocats et avocates de France. Et une fois que vous avez donné nom, prénom et barreau, ils peuvent les retrouver. Voilà pour un peu les droits que vous allez avoir lors de cette garde à vue. Vous avez aussi le droit, à demander un kit hygiène. c'est pareil. Vous avez de la chance si ce droit est respecté là, mais vous pouvez l'avoir. Il y a notamment des protections hygiéniques dans ce kit hygiène. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez demander en garde à vue. Durant cette garde à vue, vous allez être auditionné, c'est-à-dire qu'on va vous faire venir et un OPJ, un officier de police judiciaire, va vous poser des questions. Encore une fois, peu importe ce que vous raconte cet officier de police judiciaire, vous n'êtes obligé de déclarer que votre petite identité, nom, prénom, date et lieu de naissance, ainsi que adresse et potentiellement nom et prénom de vos parents. Rien ne vous oblige à déclarer plus que ça, et c'est hyper important d'avoir bien ça en tête, car ils vont absolument utiliser toutes les techniques possibles pour vous forcer à déclarer plus. Et en fait, parler, c'est-à-dire ne pas utiliser son droit au silence, parler, c'est déjà s'incriminer. C'est des questions qui sont pièges, c'est des questions... Est-ce que vous êtes venu à cette manifestation avec des amis, par exemple? Vous répondez non, c'est déjà admettre que vous êtes venu. Pas avec des amis, mais que vous êtes venu. Et ça, c'est déjà vous incriminer. Il est vraiment hyper nécessaire, dans un cadre de défense collective, où on se défend nous-mêmes, mais on défend aussi nos camarades, de ne rien déclarer, de garder le silence pendant cette audition. Il va y avoir aussi... Du coup, ils peuvent aussi utiliser plein de techniques. Ils vont dire que ça va durer moins longtemps si vous parlez, que potentiellement ils peuvent pas avancer dans le questionnaire et qu'ils sont bloqués. Il faut absolument continuer sur le rien à déclarer. Vous n'avez rien à déclarer. À la fin de cette audition, ils vont vous faire relire le procès-verbal de l'audition. Relisez-le bien. Regardez bien qu'il y a bien écrit que vous n'avez rien déclaré. C'est hyper important de relire tous les documents qu'on vous donne. Ils vont vous demander de le signer. Vous pouvez le signer ou ne pas le signer. Encore une fois, s'il est conforme à ce que vous avez réellement pas déclaré, du coup, il y a pas de souci a priori à le signer. N'hésitez pas à le faire corriger. Si à un moment vous avez dérapé, vous avez dit quelque chose, au moment où vous relisez ce PV d'audition, vous pouvez bien dire « Écoutez, excusez-moi, moi je suis désolée, j'ai jamais dit ça, merci de le corriger ». Ensuite, au niveau des empreintes, en plus il y a pas mal de questions là-dessus dans le chat, sachez que on va aussi vous demander vos empreintes et votre ADN. Refuser les empreintes est un délit, refuser la prise d'ADN est aussi un délit. Sachez néanmoins que sur l'ADN, c'est rarement poursuivi, on gagne souvent face à ça, parce que la France reste encore une mauvaise élève là-dessus vis-à-vis de l'Europe. Sur les empreintes, c'est un délit qui est souvent poursuivi et qui souvent gagne, enfin, c'est-à-dire que si vous êtes incriminé sur quelque chose, vous pouvez voir votre peine augmenter parce que vous avez refusé de donner vos empreintes. On doit aussi vous dire que depuis peu, il est possible d'avoir l'autorisation pour les flics de prendre les empreintes de force. Donc c'est quelque chose qui peut se passer. Clé de bras et compagnie, pour l'instant, on l'a surtout vu à Paris, mais c'est désormais possible d'avoir ce type d'autorisation de prise d'empreintes de force. Sachez-le. Donc vous pouvez refuser l'ADN et les empreintes, néanmoins ça vous expose à des peines supplémentaires, notamment sur les empreintes. Sur l'ADN, c'est beaucoup plus facile de refuser. Une fois les premières 24 heures de garde à vue passées, alors vous pouvez être relâché à n'importe quel moment dans les premières 24 heures sans rien, etc. Vous pouvez aussi être prolongé, c'est-à-dire que votre garde à vue peut être prolongée de 24 heures supplémentaires. Sachez que ça renouvelle vos droits à appeler proches, médecins, avocats, employeurs, employeuses. N'hésitez pas. Ne pas signer ces PV d'audition ne sont pas de risques supplémentaires. Donc sur cette prolongation, sachez que du coup vous pouvez aussi rappeler, recontacter. Ça nous permet aussi d'être au courant, de savoir que vous avez été renouvelé, que les personnes sur place sachent que vous avez été renouvelé. C'est une possibilité. À la fin de votre garde à vue, vous pouvez soit sortir de la garde à vue avec rien, avec un rappel à la loi, ça peut se passer comme ça. Du coup, vous sortez. Vous pouvez aussi sortir avec une date ensuite de procès, donc une convocation à vous rendre au tribunal. Vous pouvez aussi être envoyé en comparution immédiate, c'est-à-dire qu'on va vous dire « bah maintenant, tu vas aller tout de suite devant le juge ». Passer de la case garde à vue à la case juge directement. Dans ce genre de cas, vous appelez absolument les avocates qu'on vous a citées, Colline Bouillon et Chloé Chalot, Barreau de Créteil et Barreau de Rouen. Il ne faut vraiment pas hésiter à les appeler quand on vous dit que vous allez comparaître immédiatement devant le juge. Cette comparution immédiate, il faut la refuser. Il faut dire que vous avez besoin de plus de temps pour préparer votre votre défense. Donc on refuse la comparution immédiate, c'est des choses qui sont faites sur le coin de la table, ça va très vite. Il faut absolument refuser de signer tout papier, toute peine, toute reconnaissance de culpabilité ou d'être jugé en comparution immédiate, et donc absolument demander à avoir du temps pour préparer votre défense. Et là, normalement, du coup, vous serez relâché et ça vous sera, vous obtiendrez cette possibilité d'être jugé a posteriori, notamment si vous avez bien préparé vos garanties de représentation. Et du coup, je repasse la parole pour tous ces détails-là, qui sont les détails pratiques. Et on va vous remettre les liens dans les chats, etc., vers tous les documents et les informations.
Donc du coup, pour les garanties de représentation, yes, merci beaucoup. Ça fera partie donc des informations, des documents à bien fournir à votre proche pour que l'avocate du coup puisse la récupérer. Et donc ça va être carte d'identité, un scan du coup d'image de votre carte d'identité, une attestation d'hébergement ou contrat de travail, attestation pour l'emploi, certificat étudiant, ou tout autre document qui permette via l'idée devant la justice, hein, qui est particulièrement appréciable, c'est de montrer des preuves que vous allez vous représenter devant la justice du coup pour ce jugement qui sera donc plus tard pour que vous puissiez préparer votre défense. Et donc du coup bien préparer ça, c'est éviter une situation tendue en tout cas qui déjà tendue à la base. Donc c'est chouette de préparer donc que cette proche et bien le numéro de la base arrière juridique donc qu'on vous a remis dans la discussion, mais je le redonne à Laura au cas où. Donc c'est le 07 58 03 53 95 et donc voilà, ce sera ensuite votre proche qui pourra nous contacter pour nous fournir ses garanties de représentation et prévenir vos potes si besoin. Les noms d'avocates, on insiste encore, mais vraiment, si vous pouvez vous les écrire sur vous, c'est parfait avec leur barreau. Et ça peut être aussi bien de prendre un temps avant l'action, potentiellement, soit dans le trajet pour venir ou autre, dans votre groupe affinitaire, pour pouvoir discuter de quelles vont être vos positions un petit peu collectivement par rapport à la répression, enfin par rapport au contrôle de police par exemple. Est-ce que vous avez une tactique en particulier, est-ce que vous avez votre carte d'identité sur vous ou pas, est-ce qu'il y a besoin de se mettre d'accord là-dessus dans la voiture, quel est votre niveau d'aisance aussi beaucoup pendant l'action pour ne pas vous laisser embarquer un petit peu par l'enthousiasme qu'il peut y avoir pendant la mobilisation et qui peut vous amener à vous exposer au-delà de ce que vous auriez souhaité vous exposer. Et donc du coup c'est ça peut être intéressant de faire en discuter en amont. Et voilà pour nous. Avant de repasser la parole du coup pour la suite, un peu plus sur le lien avec ce qui se passe pendant la mobilisation sur le terrain et comment se complexise la répression sur le terrain. On vous donnera les étiquettes, donc le numéro de la base arrière juridique, gardez-le au cas où. La manière dont fonctionnent pour l'instant les enquêtes qui ont permis d'amener au procès du coup des personnes lors des précédentes actions donc que j'ai présentées tout à l'heure, c'est de prendre à partir des images de l'action, donc souvent des images de presse notamment, des visages identifiables et d'essayer de faire un signalement dans les gendarmeries de France pour voir s'il n'y aurait pas des gendarmes qui auraient déjà vu ces visages-là, qui pourraient donner leur nom. Donc, avoir son visage qui n'est pas visible peut avoir un intérêt à cet endroit-là. Mais ce qui est surtout très important, c'est que si jamais vous êtes contacté par la gendarmerie après, nous contacter, du coup, appeler la base arrière juridique pour qu'on puisse, du coup, organiser une défense collective comme présenté au début. Donc pour moi, je ne sais pas si on a des choses à compléter là-dessus. La parole.
Pour les personnes qui ne seraient pas de nationalité française, je préfère quand même préciser, parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus dans le chat, n'hésitez, nous, on va être sur une ligne où on conseille de déclarer une grande identité, c'est-à-dire de répondre aux questions qui sont d'ordre administratif. administrative, parce qu'il y a des risques supplémentaires, notamment de détention administrative, d'être reconduit à la frontière aussi. Voilà, les risques ne sont pas les mêmes et il y a une forme aussi de privilège à pouvoir se permettre de ne rien déclarer du tout. Voilà. Donc, sachez en tout cas que ne pas déclarer son identité, quand on n'est pas de nationalité française, expose à des risques supplémentaires. Il faut l'avoir en tête. Encore une fois, on a un document qui va être traduit et qui expose ces risques-là beaucoup plus en détail et qui sera disponible en tout cas sur site.
Une mégabassine, qu'est-ce que c'est ? Une mégabassine fait 8 hectares. C'est l'équivalent de 8 terrains de
foot. On a donc cru prendre trop
aujourd'hui sur cette réserve.
La privatisation de l'eau.
Mais pas grand temps, pas le temps de l'eau.
Elle est où ?
Elle est financée par de l'argent public.
Des cultures d'exportation.
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 Privatiser l'eau, vider les nappes phréatiques, se foutre de la verdure, préfère les pompes afriques, l'accaparement des terres au service d'une minorité, l'agro-industrie, une course au profit incontrôlée, l'assèchement des rivières, la congestion, les pendages, le mépris des bêtes, des fleurs, de la faune sauvage, une course contre la montre, avant la catastrophe, l'indifférence des préfets, bien sûr on les apostrophe, l'assèchement des cours d'eau, des montages financiers, des drones plus de paysans, des firmes subventionnées, aucun respect du vivant, ni de la beauté rurale, les ressources naturelles, ils pillent comme des chacals, et pour loisir ils butent le renard et autres espèces en crachant sur les promeneurs, sans pudeur ni finesse, la même idéologie mortifère et cruelle, bassine, non merci, c'est notre cri de rebelle, nos bassins. No basalam, no basalam. Basin, no merci. Basin, no merci. No basalam, no basalam, no basalam. Radical écologie, radical écologie. No basalam, no basalam, no basalam. Basin, no merci. Basin, no merci. No basalam, no basalam, no basalam. Radical écologie, radical écologie. Ils veulent toujours plus de blé, alors qu'on est fauché. Volontairement ils pillent les paysages amochés, approchés. Sentez l'odeur de soufre de la pollution. Le futur ils s'en tapent, reprenez votre respiration. Leur seul but c'est l'oseille, pas l'herbe aromatique, ni l'extinction des abeilles, des pirouettes acrobatiques, intellectuels politiques. Ils méprisent l'écologie du lot. Une stratégique teintée de démagogie, un verre de pesticides en guise de bière santé. Ils ont niqué et balisé le rinté, esquinté la nature, une lame dans le dos de Gaïa, la conscience tranquille, des graines à naturalia, des individualistes, des gros crevards, des sales capitalistes, des gros viandards, des climato-sceptiques, des gros barbares, des totalitaristes, des gros sommes là. No basalam, no basalam, no basalam. Basin, no merci. Basin, no merci. No basalam, no basalam, no basalam. Radical écologie, radical écologie. No basalam, no basalam, no basalam. Basin, no merci. Basin, no merci. No basalam, no basalam, no basalam. Radical écologie, radical écologie, écologie. We'll be right back.
retour dans Les Amis d'Orwell avec donc ce soir la présentation par le collectif Bassine Non Merci d'un brief juridique, technique, mais aussi médical sur ce qui se passera donc demain et après-demain, samedi et dimanche dans les Deux-Sèvres pour la manifestation donc contre les méga bassines. Donc après un point juridique très complet, venons-en maintenant à une intervention du collectif Désarmons-les à propos des armes de la police, notamment les grenades, qui vont sans doute faire leur apparition ce week-end, donc mieux les connaître pour mieux s'en protéger.
Voilà, l'intérêt de faire une présentation sur les armes, je vais essayer de faire ça en 15 minutes, pas plus, c'est de bien comprendre que quand on va sur un lieu comme ça, ça a été évoqué avant, il y a un fort risque de répression judiciaire, mais il y a évidemment aussi un fort risque de répression policière. Et du coup, c'est important de savoir vraiment à quoi on peut potentiellement s'exposer quand on va à une manifestation comme ça. Et nous, c'est ce qu'on fait en tant que dans des collectifs de victimes et de personnes qui s'organisent contre la répression policière. C'est ce qu'on essaye de faire au plus possible dans un certain nombre de cadres pour que, en gros, de manière générale, des gens ne puissent plus vraiment dire « je ne savais pas que ça existe ». Donc ça, c'est important. Du coup, je vais faire un tout petit topo général pour comprendre aussi d'où cette répression, elle vient. En fait, faut savoir que vraiment depuis 20 ans, ça a évolué de manière assez rapide, que la militarisation, elle a augmenté et que donc potentiellement sur des lieux comme ça, surtout dans la ruralité hors des villes, mais pas seulement, il y a vraiment un risque énorme de retrouver face à soi des armes de catégorie A, donc des armes de guerre, des armes qui sont potentiellement létales, qui en tout cas peuvent blesser gravement et voire mutiler définitivement. Et du coup, pour comprendre ça, c'est que depuis 20 ans, il y a eu vraiment une évolution assez rapide, parce que qui est allée aussi avec la libéralisation de l'économie, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui produisent des armements, qui veulent les vendre et qui font du lobbying auprès des politiques. Du coup, il y a vraiment un aller-retour entre les politiques et les lobbies industriels et marchands au moment du salon de l'armement, etc. Ce qui fait que depuis 20 ans, en fait, des nouvelles armes sont arrivées. En fait, chaque année, on en a quasiment chaque année ou tous les deux ans, on a des nouvelles armes qui apparaissent et il faut à chaque fois s'y accommoder, mais comprendre comment elles fonctionnent, les reconnaître quand on voit des policiers avec, etc. Et après, donc ce processus de militarisation, il a évolué assez rapidement. Les politiques, elles ont d'abord commencé. Les politiques commencent par expérimenter les nouvelles armes après avoir été séduits par les marchands, en fait, par les producteurs et les marchands. Et au cours de cette phase d'expérimentation, souvent ils mettent ça entre les mains des policiers, des gendarmes qu'on a face à nous. Et donc c'est pour ça, c'est à ce moment-là qu'on voit souvent apparaître des armes qu'on connaissait pas, parce qu'elles sont en expérimentation avant même d'avoir été adoptées. Et après, en fait, à partir du moment où elles ont été mises entre les mains des policiers et des gendarmes, très très souvent, les policiers et gendarmes veulent les garder et font la pression sur les politiques dans le sens inverse pour une amélioration de l'arsenal, pour une généralisation de ces armes et pour obtenir un encadrement légal qui leur garantit une forme d'impunité ou de protection fonctionnelle si, en fait, ça occasionne des blessures dans le cadre de l'emploi. Et donc, en fait, avec ces allers-retours entre le politique, les industriels et les policiers, la doctrine de l'emploi de la force, elle a vachement évolué depuis 20 ans et elle s'est vraiment transformée. C'est-à-dire qu'on est passé d'une logique dissuasive, où l'idée, c'était plutôt de gérer la foule pour la faire rentrer chez elle, entre guillemets, elle est passée de plus en plus dans des logiques punitives. Donc l'idée, c'est plus de frapper les corps, de punir des individus pour faire peur au reste de la foule, et donc plutôt pour punir la foule que de gérer la foule. Et ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit, parce que ça explique aussi qu'on va avoir face à nous des gendarmes et des policiers qui seront beaucoup moins conciliants qu'on pourrait le croire. On pense souvent qu'on peut dialoguer avec eux, etc., mais en fonction des ordres qu'ils ont reçus, mais aussi en fonction d'une logique répressive qui est à l'œuvre, ils vont pas être du tout à l'écoute, et ils vont plutôt appliquer la violence de manière de plus en plus arbitraire dans un but de punir. Et donc, c'est dans cette logique-là qu'on peut les avoir face à nous, et c'est bien de l'avoir à l'esprit quand on va sur des manifestations comme ça, pour pas s'illusionner sur ce qui pourrait nous arriver. Et donc, enfin, la dernière étape, c'est aussi que, du coup, comme je l'ai dit, les policiers font pression. Et donc, en fait, le cadre législatif, il s'est adapté à l'évolution de cette doctrine et à l'évolution des pratiques par la police à la suite d'expérimentations de nouvelles armes. Et ça, c'est important de le savoir, parce que ça explique aussi, on y reviendra à la fin, j'y reviens à la fin, sur pourquoi porter plainte, est-ce qu'il faut porter plainte ou pas porter plainte. Au dernier rassemblement à Sainte-Soline, la question est revenue de la part de personnes blessées, c'est est-ce que ça fait sens de porter plainte. Du coup, je pourrais répondre à la fin de cette présentation. En tout cas, ce qu'il faut un peu retenir sur les armements, ils sont un peu de trois grosses catégories. C'est-à-dire que là, je ne vais pas du tout rentrer dans des détails techniques lourdingues parce que ce n'est pas du tout intéressant et ça rend les choses plus confuses qu'autre chose. Mais en tout cas, dans une manifestation aujourd'hui, on peut être amené à être confronté à la fois à du gaz lacrymogène sous plusieurs formes. Ça peut être des gazeuses à main, c'est des gazeuses qui vont être projetées sur une distance qui ne va pas excéder 15 mètres, 15-20 mètres. Des grenades lacrymogènes qui contiennent du gaz CS, du coup, c'est le gaz le plus courant qui est utilisé. La deuxième grosse catégorie, ça va être des armes à effet de souffle, de blast, donc c'est ce qu'on appelle communément des grenades explosives. Donc elles contiennent essentiellement deux types d'explosifs en France, la TNT et le RDX. Et ensuite, il y a une troisième catégorie, c'est les armes dites d'impact ou à effet cinétique, comme les balles de gomme, donc les fameux LBD, et les grenades de désencerclement qui, en fait, projettent des petits clous en caoutchouc, qui sont un peu des projectiles du même type que les balles de gomme. C'est des projectiles de gomme. Et donc, ce qui va nous intéresser, nous, quand on est dans une foule et qu'on est visé par ces armes-là, et pour anticiper le danger, c'est les principales données à prendre en compte, c'est le fait que c'est à la fois la concentration des gaz. On a eu très très souvent des retours de manifs depuis les gilets jaunes, disant il y a une nouvelle arme, il y a un nouveau gaz, il est plus agressif que le précédent, ils ont des nouvelles armes, etc. En fait, en réalité, il y a des différents types de grenades qui sont utilisées et qui vont varier en termes de concentration. C'est-à-dire que une même grenade tirée dans un même espace va être plus ou moins la quantité de gaz lacrymogène va être plus ou moins concentrée. Et donc il va falloir s'intéresser à la concentration de gaz. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est important à savoir, c'est que les nouvelles grenades de 40 mm qui sont beaucoup plus petites et qui semblent plus inoffensives, en fait, sont en réalité plus agressives que les anciennes grenades de 56 mm. Elles sont pas tirées avec les mêmes armes, les grenades sont plus petites, donc on les voit moins et donc un peu instinctivement, on se dit qu'elles sont moins dangereuses alors qu'elles sont quasiment deux fois plus agressives que les anciennes grenades de 56 mm. Ensuite, il y a la force de détonation, et ça, c'est quand on est confronté aux armes dites aux grenades explosives dont j'ai parlé avant. Et là, il y a essentiellement une catégorie qui est aujourd'hui utilisée et qui commence à être remplacée aussi, c'est la fameuse GM2L, on en a beaucoup parlé dans les médias. Elle contient du RDX, qui en fait est un explosif qui est 1,6 fois plus puissant que la TNT. Donc, elles sont plus puissantes en réalité que les grenades précédentes, qui étaient les Gli F4, qui ont notamment été responsables de mutilations pendant le mouvement des Gilets jaunes et même avant. Elles ont été remplacées par les GM2L sous prétexte qu'elles étaient moins dangereuses. En réalité, elles sont plus dangereuses parce que l'explosif à l'intérieur est plus dangereux. Et en fait, la troisième donnée à prendre en compte, c'est la puissance d'impact. Et la puissance d'impact, en fait, c'est essentiellement lié, dites aux armes d'impact, aux armes à effet cinétique, c'est les LBD et les GMD. En fait, on dit souvent, il y a eu des comparaisons qui sont faites, c'est un peu difficile de faire des comparaisons, de vulgariser, mais en gros, si vous prenez un tir de LBD dans le visage, ça équivaut à un parpaing lâché de 1 mètre au-dessus de votre visage. Donc, ça donne un peu une idée de la force d'impact, de la puissance d'impact d'une balle de LBD. Et la grenade de désencerclement, les différents modèles, parce qu'il y a aussi différents modèles de grenades, c'est à peu près l'équivalent, le petit plot de 2 cm, donc de 9 grammes, et l'équivalent d'une boule de pétanque lâchée sur votre visage à 1 mètre. Donc ça dit vraiment la puissance de ce petit plot de caoutchouc suffit à être extrêmement impactant. Du coup, là, j'ai mis quelques images. En fait, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est bien de savoir que ces armes-là sont pas nouvelles, que vous allez potentiellement les voir, que vous pouvez les voir à Sainte-Soline, puisqu'elles sont utilisées par les différentes forces. Donc, vous avez les lance-grenades classiques, vous avez le lanceur de balles de défense, qui est un fusil, et vous avez les nouveaux lanceurs de balles qui sont à multi-coups. En fait, c'est une arme qui tire plus loin et qui peut être utilisée par notamment la police, les CRS, et qui tirent des grenades de 40 mm dont je parlais avant, donc qui vont augmenter la concentration de gaz dans l'air. Et puis, il y a une nouvelle arme qui a été testée, qui est en train d'être testée sur la lutte des bassines, et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. C'est pas vraiment une arme pour impacter, c'est plutôt une arme de contrôle a posteriori, pour identifier. C'est pas vraiment une arme, c'est un moyen d'identification. Elle est de couleur jaune parce qu'elle est en phase expérimentale et elle a été utilisée au cours des derniers rassemblements. Ce qu'elle permet, en fait, c'est de projeter des petites billes d'un liquide inodore, incolore et donc quasiment invisible qui va pouvoir être détecté a posteriori si vous êtes arrêté, interpellé ou lors d'un contrôle de police. Et donc, si vous n'avez pas ça sur vos vêtements, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais elles permettront éventuellement de vous identifier si un gendarme vous a visé avec cette arme. C'est potentiellement parce qu'il vous accuse, il vous suspecte d'être en train de commettre un délit et il veut pouvoir vous identifier a posteriori. Donc, il faut vraiment voir si vous les avez face à vous, cette arme jaune-là, il faut être extrêmement vigilant. Voilà, il faut savoir aussi, après là, c'est des prospections et ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail, mais potentiellement, dans la ruralité, les forces de l'ordre peuvent utiliser des moyens plus mobiles. Et notamment, ils ont évoqué dans des articles de presse la possibilité que les PSIG, donc qui sont un peu l'équivalent de la BAC de la gendarmerie, utilisent des motocross, voire des quads lors des prochaines manifestations. Il est toujours possible de voir des blindés de gendarmerie, comme on les a vus à Notre-Dame-des-Landes, ou des canons à eau sur les voies circulables, mais c'est pas nécessaire qu'ils les utilisent. C'est pas forcément pertinent pour eux de les utiliser à Sainte-Soline. Donc voilà, faut pas trop avoir peur ou avoir des fantasmagories sur ça. En tout cas, motocross et quad, c'est quand même une éventualité puisqu'ils veulent utiliser les PSIG. Et donc voilà, faut l'avoir à l'esprit, c'est qu'ils gagnent en mobilité dans les champs avec ce type de véhicule. Par rapport aux grenades, donc je vous ai donné un petit peu les différents types de grenades. Je vais pas vous dire les modèles parce que c'est pas intéressant là ici. C'est juste là, ce que vous les avez sous les yeux si vous regardez l'écran. Je pense qu'il faut retenir essentiellement, c'est qu'il y a quand même une panoplie assez large, que c'est pas évident de les distinguer les unes des autres, qu'elles sont quasiment toutes grises. Ou en tout cas elles sont plastifiées, grises, etc. En tout cas, ce qui peut être absolument indispensable, c'est de reconnaître à minima celles qui sont les plus dangereuses, et notamment les Gli F4 qui sont à gauche, à droite, en haut sur l'écran. Elles sont reconnaissables parce qu'il y a une capsule marron. Le problème, c'est que la capsule marron, vous la verrez pas forcément arriver avec la grenade. Vous verrez plutôt un opercule rouge vif qui est à l'intérieur. Et donc, en gros, ce que vous pouvez retenir, c'est que si vous voyez un projectile arrivé sur vous qui est de couleur rouge, marron ou bleu, c'est qu'il s'agit pas d'une grenade lacrymogène classique. Après, je pourrais vous donner plein d'autres. Voilà, elle est pas forcément bleue, elle peut être rouge à l'extérieur. En tout cas, le projectile rouge est assez indicateur de quelque chose de dangereux qui vous tombe dessus. Il faut savoir aussi, dans les grenades, il y a plein de petits objets qui sont projetés au moment de l'explosion. Et donc, faut avoir à l'esprit que, voilà, la dangerosité, elle vient pas seulement de la grenade qu'on voit, qu'on visualise en train de tomber du ciel. Elle provient aussi des projectiles qui vont être propulsés beaucoup plus loin, que la grenade elle-même. Notamment des petits projectiles métalliques, de plastique dur, incandescent, etc. Donc voilà, faut l'avoir à l'esprit. Ça veut pas dire qu'il faut paniquer, entre guillemets. Alors, je sais que c'est toujours difficile et vachement anxiogène de faire une plantation sur les armes dans ces cas-là, mais par expérience, on sait dans nos collectifs que c'est mieux de partir conscient que d'ignorer l'existence de ces dangers-là. Et les dangers, ils sont liés non seulement à l'onde de choc pour ce qui est des grenades, donc il y a plusieurs effets de souffle, le blast primaire, secondaire, tertiaire et le quatrième blast. C'est tout ce qui correspond un petit peu aux effets de la grenade selon l'éloignement par rapport à la grenade. Donc, il y a l'onde de choc, il y a des éclats et des projections d'objets, mais on peut aussi souffler par la grenade, pousser sur des objets, et ça peut contribuer à nous blesser. Et après, il y a un quatrième blast qu'on appelle le traumatisme psychologique, qui est lié au traumatisme psychologique, dont vous parleront plus tôt les équipes de soins psy. Il y a un certain nombre de blessures, on va pas les énumérer non plus, mais voilà. Il peut y avoir, le premier, c'est face au gaz, des chocs respiratoires, difficultés à respirer, éventuellement aussi des malaises liés à l'absence, à l'intoxication et au manque, à l'absence de respiration, de possibilité de respirer. Donc, ça peut aller jusqu'au vomissement, et éventuellement la diarrhée dans des cas marginaux. Mais, voilà, il peut y avoir un certain nombre d'effets directs liés au gaz et qui sont des effets respiratoires. Vous pouvez avoir des hématomes, des contusions, des abrasions. Vous pouvez avoir des brûlures, des fractures osseuses, des commotions de trauma crânien, des incrustations avec des plaies pénétrantes, mais aussi des mutilations, des ruptures d'organes. Voilà, ça c'est un peu, je vous fais toute la liste catastrophique de tout ce qu'on a pu observer sur des blessures liées à ces armes-là. Le plus souvent, c'est quand même des chocs respiratoires et des hématomes, voire des contusions, des brûlures et parfois des fractures. Les autres blessures sont plus marginales, elles sont moins fréquentes, elles existent. Voilà, faut savoir qu'elles existent. Donc là, je vais passer à la question de la protection. C'est hyper important de se protéger le visage et la tête en priorité. d'essayer de trouver des moyens de se protéger les voies respiratoires, c'est-à-dire de ne pas respirer à plein poumon les gaz, se protéger les parties intimes, donc les parties génitales essentiellement, qui sont sujettes aux projectiles et aux fragments qui viennent du bas, du sol, mais aussi évidemment le triangle, en fait tout ce qui est, tous les organes au niveau du ventre, du thorax, etc., ce qu'on appelle la bouteille. Il faut trouver des moyens un peu peut-être de se rembourrer sans mettre du papier, attention, pas de mettre du journal sous les vêtements parce que ça peut s'enflammer, mais en tout cas essayer de trouver des moyens de rembourrer un petit peu sur le devant pour protéger les organes internes comme la rate, les poumons, le cœur même. Et donc voilà, il y a différents moyens, et je veux pas être exhaustif, moi je vais me concentrer sur les masques parce que c'est souvent un débat, quel masque on peut utiliser. Donc il y a 5 types de masques, il y a les masques de piscine, les masques de peinture, les masques de ski, les masques à gaz à proprement parler, et les masques de bricolage ou d'airsoft. Ce qui est important de retenir, je pense, c'est que, alors je suis à 15 minutes, mais j'ai presque fini. Ce qui est hyper important, on conseillerait plutôt les masques de bricolage et d'airsoft, sachant que quand les uns vont protéger face au gaz, tandis que les autres vont protéger plus par rapport au choc. Et il n'y a pas vraiment d'idéal en termes de protection du visage pour se protéger du gaz et des chocs. Mais quand même, les gaz, les masques pour le bricolage et l'airsoft sont quand même les plus conseillés parce qu'elles ont des jointures en caoutchouc et donc ça évite que le gaz passe. Il y a notamment des débats sur le fait que le masque de ski est efficace. C'est toujours une protection, mais en tout cas la mousse entre le visage et le masque laisse passer les gaz. Donc voilà, là j'ai mis des conseils de masques, et notamment c'est vraiment les 4 masques qui peuvent être utilisés et qui sont sans doute les plus conseillables. Et donc ce que je conseillerais en priorité, c'est les masques anti-éclat qui sont utilisés pour l'industrie, comme le masque Bollé avec la norme EN166 et EN170. Il y a aussi d'autres marques, mais Bollé et Uvex, c'est les masques principaux. Et pour ce qui est des gaz, les masques 3M avec des cartouches aux couleurs marron, gris, jaune. Donc c'est un code couleur, c'est la norme de quels gaz vont être filtrés par ces cartouches. Donc prenez des cartouches marron, gris, jaune en priorité pour ce qui est du code couleur. Et voilà, je termine doucement sur la question des bons réflexes. Il faut être, dans un premier temps, il faut être vigilant, il faut regarder loin et haut pour voir ce qui tombe du ciel et pouvoir anticiper ce qui tombe et pouvoir s'en éloigner. Donc c'est un peu, et les contrôles directs droite à gauche pour voir si des équipes de police qu'on n'aurait pas vues viendraient des côtés. Avoir toujours une vigilance pendant qu'on agit et qu'on est en manifestation. 2, c'est la gestion du stress. Alors ça, c'est facile à dire quand on a peur, mais réussir à gérer son stress, c'est-à-dire à inspirer doucement par la bouche, à expirer par le nez, à prendre le temps, à pas courir de manière disproportionnée, vraiment que quand on sent qu'il y a un danger imminent, c'est ne pas générer des mouvements de foule, c'est extrêmement important, aussi parce que le stress, il participe à l'effet des gaz lacrymogènes. Les gaz lacrymogènes sont assez pervers, c'est-à-dire que la génération du stress dans l'organisme augmente les effets des gaz lacrymogènes. La 3e règle, c'est s'éloigner, absolument s'éloigner, c'est la règle primordiale pour les grenades. On sait qu'on a souvent envie de relancer les grenades lacrymogènes, mais à minima, on peut appliquer la règle des 2-3, c'est-à-dire on attend 3 secondes avant de toucher un truc qui tombe du ciel. On attend 3 secondes parce que le temps d'explosion d'une grenade, c'est entre 1,5 et 2,5 secondes. Donc, on attend au minimum 3 secondes, voire plus. Et on s'éloigne d'un minimum 3 mètres, voire plus. Et on ouvre la bouche. Alors ça, c'est un peu étrange comme conseil, mais on ouvre la bouche parce que c'est pour la décompression. C'est-à-dire que ça va à l'encontre de la pression des grenades à effet de souffle et ça permet de pas avoir des effets, des affections à l'intérieur de l'organisme en raison du blast. Donc ouvrir la bouche, c'est un conseil. Et le dernier conseil, là, c'est la protection de manière générale. Donc se mettre près du sol quand une grenade arrive. Alors évidemment pas à proximité de la grenade. Se mettre derrière un obstacle et surtout se protéger la tête et notamment les yeux et les oreilles, comme sur l'image que j'ai mis sur l'écran, les bras autour de la tête et on tourne le dos à l'explosion. C'est-à-dire qu'on s'éloigne de 3 mètres, on tourne le dos, on essaie de se rapprocher du sol et surtout, on protège ses oreilles et son visage. Voilà, et je termine sur ça. La question du traumatisme, elle est extrêmement importante pour nous. C'est pour ça que moi, je suis toujours favorable pour participer à ces briefs. Il faut multiplier ces briefs à chaque fois qu'on va dans des moments de répression, des moments de manifestation. Ce qu'on oublie souvent notamment, c'est que la plupart des blessures sont invisibles. Même quand on pense qu'on a été préservé, il faut toujours partir du principe que potentiellement, on a des blessures invisibles par rapport au blast et notamment par rapport au trauma. Et donc, il faut toujours avoir à l'esprit qu'une personne qui a été dans une manifestation à proximité d'une violence est potentiellement blessée, en tout cas à l'intérieur. Et donc, les autres conseils que je donnerais, c'est de toujours vérifier le consentement de la victime avant de faire quoi que ce soit. Et aussi respecter la temporalité de la victime. Et ça, c'est pour nous, c'est hyper important. Ne pas pousser les gens à porter plainte. Ne pas pousser les gens à réagir dans les jours qui suivent la blessure. Laisser le temps à la personne de redescendre, de comprendre ce qui lui est arrivé. Donc vraiment de respecter, dans tous les sens du terme, respecter le consentement et la temporalité de la victime. Et après, si la question de la plainte ou pas plainte, en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a vraiment pas de réponse toute faite. C'est on évalue le préjudice. Qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on pense gagner en allant en justice? Quel est le souhait de la victime? Du coup, on doit demander à la victime, c'est quoi son souhait? Qu'est-ce qu'elle veut obtenir en portant justice? Qu'est-ce qu'elle pense obtenir? Et ça doit être discuté. On doit avoir un dialogue, une discussion avec la personne. Un des motifs qui peut amener à porter plainte, c'est d'avoir des informations sur qui m'a blessé, qui m'a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, obtenir des éléments de vérité qui peuvent permettre la réparation. Et ça, c'est vital. En fait, on peut pas nier que le fait de porter plainte apporte des réponses et que ces réponses permettent de se réparer. Et donc voilà, de manière générale, ne pas ajouter du trauma au trauma, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que, par exemple, quand on pousse quelqu'un à porter plainte en justice, on oublie souvent qu'il peut y avoir des violences judiciaires en plus des violences policières. Et donc, il faut pas ajouter du trauma au trauma si on sent que la personne est vulnérable. Si la personne elle-même sent qu'elle est vulnérable, il faut pas la pousser à aller mener des démarches, etc., à se faire connaître, ou même médiatiquement, juridiquement ou médiatiquement, ne pas exposer la personne à ce qui pourrait s'avérer être un trauma supplémentaire. Et c'est là où je finis vraiment sur le rôle des collectifs de soutien de victimes. En fait, si j'ai mis des logos en dessous là de la présentation, c'est pas parce qu'elles sont co-organisatrices de l'événement, mais c'est parce que c'est des collectifs existants de victimes et de personnes blessées. Et donc, il faut pas hésiter à les contacter. Vous pouvez les trouver en tapant leur nom sur Internet. Les contacter pour avoir des conseils, pour pas rester seul, pour discuter, pour être accompagné juridiquement, et même pour faire du lien avec des psys si on n'a pas pu faire le lien pendant l'événement donné. Donc voilà, il y a Désarmons-les, l'Assemblée des blessés, les Mutilés pour exemple, et le réseau d'entraide vérité et justice concerne davantage des personnes tuées par la police. Mais comme il y a eu des personnes aussi tuées pendant les manifestations, il faut voilà toujours avoir, savoir que ces collectifs existent. Voilà, je finis là-dessus. Désolé pour la longueur et surtout, il faut pas y aller en ayant peur. L'objectif de cette présentation n'est pas d'avoir peur, c'est plutôt le contraire. C'est de se rassurer et dire qu'on peut se protéger. Et quand on s'organise collectivement et qu'on est conscient des risques et qu'on est vigilant quand on y va, c'est le meilleur moyen de réussir à continuer d'agir sans y perdre trop. Voilà, merci.
Bonjour.
Bonjour. Donc, on va introduire un petit peu en présentant l'équipe Médic qui œuvre et a œuvré sur les différents événements concernant les bassines. Donc, nous, notre titre Médic, elle est en charge donc de la prise en soin des manifestants qui auraient besoin de soins au cours de la manifestation et en post-manifestation sur une infirmerie qui aura lieu sur les camps ou le camp. L'équipe médicale, elle est composée de professionnels de santé, mais aussi de personnes qui sont non professionnelles et qui ont tout autant des compétences et des savoir-faire et de l'expérience en milieu de manifestation. Pour nous, c'est important de rappeler que notre team médicale, elle est pas neutre politiquement. On entend par là qu'elle est présente en soutien en fait aux camarades qui manifestent. On est aussi des militants anti-bassines. Notre équipe, elle fonctionne en lien étroit avec la Legal Team et les personnes attachées aux soins émotionnels psy qui interviendront un peu plus tard dans ce brief. On s'inscrit aussi dans un fort enjeu de lutte contre les violences policières et pour cela, on essaie de s'attacher à assurer un espèce de relevé circonstancié et des blessures auxquelles on fait face, et bien sûr de façon anonymisée. Voilà, je passe la parole à mon camarade pour la suite.
Alors, se préparer avant la manif, c'est bien sûr préparer son matériel, on va en parler, mais c'est aussi arriver en forme. Donc, essayer de bien dormir avant, de pas faire des grosses fêtes. Qu'est-ce que vous pouvez prendre avec vous? Alors, il est demandé au maximum de personnes de venir en bleu de travail, quel que soit le niveau d'engagement que ces personnes envisagent. Bien sûr, il y a des bonnes chaussures, pas neuves, et des chaussures de randonnée, par exemple, et puis voilà, un truc solide, un truc confortable dans lequel vous pouvez passer une journée potentiellement dans la boue parce que peut-être qu'il pleuvra. De l'eau, bien sûr, prenez de l'eau avec vous, et puis un peu de nourriture type en cas. Alors, pour vous protéger des gaz, peut-être un masque FFP2, c'est un minimum. FFP3, c'est possible. FFP2, c'est ce que c'est après le Covid, mais ça, c'est à votre convenance. Hein. FFP3, ça filtre tout, mais pour courir, c'est moins facile. Vous pouvez imbiber le masque ou un tissu d'un peu de Malox, un mélange d'eau et de Malox, de jus de citron, afin de le rendre un peu plus imperméable au gaz. Vous pouvez aussi mettre des lunettes de protection. Le camarade en a parlé tout à l'heure et a fait. Vous voyez bien la différence d'usage entre le masque de piscine, le masque de chantier, etc. Selon ce que vous avez envisagé de faire dans cette manifestation. Prenez aussi des dosettes de sérum FI pour vous rincer les yeux si vous en avez besoin. Si on est exposé au gaz, il faut se rincer la bouche, cracher. On évite de se toucher le visage pour pas l'étaler. Et puis on n'oublie pas que les effets, finalement, ils s'estompent assez vite, de l'ordre de quelques minutes. Ça dépend de la sensibilité des uns et des autres, des unes et des autres. On vous conseille de pas mettre de lentilles de contact, ni de maquillage ou de crème grasse sur le visage, parce que ça stocke les gaz. En fait, ça augmente leur effet. Bon, ça a déjà été dit, mais on le redit parce que c'est vachement important. Si vous avez un traitement médicamenteux à prendre, conservez-le avec vous, ayez une copie de l'ordonnance pour l'hypothèse d'une garde à vue. Et puis, on voulait juste parler de l'asthme. Les personnes asthmatiques, ils peuvent avoir un rythme un peu soutenu avec des expositions. Donc, prenez plutôt un FFP3 si vous avez des problèmes d'asthme et prenez votre Ventoline aussi. Voilà, je repasse la parole à ma camarade.
On conseille aussi fortement pendant la manifestation, là les manifestations, de s'organiser en binôme, c'est-à-dire de venir avec quelqu'un de confiance, avec une personne avec qui vous avez un lien affinitaire, avec une personne avec qui vous avez partagé vos limites. Et en fait, avec cette personne, vous commencez la manifestation avec elle, vous la terminez avec elle. Ça permet que personne ne soit isolé et veiller un petit peu les uns sur les autres. Voilà, donc pendant la manifestation, voilà, il peut y avoir beaucoup de mouvements, il faut être attentif à ce qui se passe autour de nous. L'ambiance, elle peut ne pas être la même en fonction de où on se situe, de quel cortège on choisit d'aller. Enfin voilà, en tout cas, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Donc, pendant les actions, c'est important de prêter attention à ce qui sera dit par les personnes qui auront les mégaphones, c'est-à-dire les personnes qui donneront les informations et dirigeront les cortèges. Voilà, ça permet en fait d'éviter qu'il y ait des fausses informations qui circulent et de provoquer des mouvements de panique un petit peu. Voilà. Pendant l'action, l'équipe médicale, elle sera répartie partout. Si une personne est blessée, en fait, il suffit d'appeler médic assez fort en agitant et en levant les bras en l'air et en relayant un petit peu cet appel. Voilà, le temps que nos équipes interviennent, il est bien de rester avec la personne et si possible, l'éloigner un petit peu de la zone de tension, l'extraire un petit peu de la foule. Sur l'événement du week-end prochain, il y a un numéro médic qui sera diffusé. Pendant l'action, en fait, on vous appelle déjà s'il y a besoin, afin de ne pas saturer cette ligne, d'abord de faire appel aux médics qui sont sur place, au besoin. Et en fait, c'est eux qui joindront la ligne s'ils en ont besoin. Par contre, si vous êtes isolé et qu'il n'y a pas de médic en vue, voilà, il sera possible d'appeler ce numéro pour et c'est une sorte de régulation en fait, et une équipe médic sera envoyée le plus vite possible auprès de vous. Voilà, le numéro il sert aussi après l'action, ça sert à faire un suivi s'il y a des personnes qui sont blessées. Et on envisage aussi à ce qu'ils servent un peu comme permanence pendant la nuit s'il y a besoin.
Alors, après la manif, si tu as été blessé, la recommandation, c'est de passer au poste de soins du camp pour plusieurs raisons. parce que ça va permettre de réévaluer cette blessure, de voir si si c'est ça va ou s'il faut faire quelque chose en plus. Le caractère invisible, alors voilà, je trouve que c'est important qu'il y ait des soignants qui regardent ça. Et il faut se faire confiance quand même, mais ça a un intérêt aussi, même si on se sent pas, on se sent pas en danger ou quoi, de en plus de refaire le soin dans un contexte plus serein, de recenser les blessures. Bien sûr, ce sera fait de façon anonymisée, parce qu'il ne s'agirait pas d'exposer des gens à ces questions de secret. Voilà, on voulait surtout vous dire de prendre soin les uns des autres et d'anticiper, de bien vous amuser, parce que ce sont des moments festifs et d'une grande puissance collective. Et ça va être super chouette. Voilà, nous passons la parole aux camarades du Soin Psy.
Merci beaucoup.
Merci.
Suite et fin dans Les Amis d'Orwell de cette longue présentation destinée à préparer les manifestants manifestantes qui vont se rendre demain et dimanche dans les Deux-Sèvres pour deux journées d'action contre les méga bassines.
Le soutien psy-émotionnel. Du coup, c'est un groupe qui s'est monté depuis la dernière mobilisation contre les méga bassines, qui se base sur des expériences diverses, et le but, c'est vraiment d'intégrer le soin psychologique et émotionnel dans nos pratiques militantes. Ça part du constat que souvent, dans des actions politiques, il y a des médics, il y a du conseil et du soutien anti-REP, mais il y a trop peu de choses sur ces enjeux-là. Et pourtant, être confronté de manière directe ou indirecte à des situations de violence et de répression, ça a des impacts hyper concrets sur notre santé. Il y a plein de manières différentes, il y a plein de choses qui vont faire qu'on va gérer ça, ces réactions, de manière différente. Ça peut être basé sur le vécu personnel, les ressources, notamment matérielles qu'on a, le degré d'exposition à ces violences, aussi les discriminations qu'on subit au quotidien. Mais quoi qu'il en soit, tous ces événements, ils ont des conséquences à court terme, à moyen terme, à long terme, sur nous-mêmes, sur nos collectifs, sur nos mouvements. Et nous, on trouve ça hyper important d'en parler, parce que ne pas en parler, ça conduit à l'isolement, ça conduit à l'exclusion, souvent aussi à un sentiment d'impuissance. Et c'est aussi parce qu'il y en a un peu, on a un peu marre des cultures militantes un peu virilistes qui glorifient un certain rapport à la violence, considèrent qu'être faible et que chercher de l'aide, eh ben, ça va pas. Et du coup, on dit non et on politise le soutien psychologique et émotionnel. Quelques conseils pour la mobilisation. Ça a déjà été dit, on le répète. Prenez le temps de voir dans quel état vous êtes. Comment vous vous sentez physiquement, émotionnellement? C'est quoi vos envies en allant à cette action? C'est quoi vos limites? De quoi est-ce que vous avez besoin pour participer à la mobilisation? Deuxième conseil, prenez le temps de repérer les différents espaces, les points d'accueil, les espaces de campement, les cantines, où se trouve l'espace médic et l'espace soins, où est-ce que je peux trouver les informations, etc. etc. Les copains en ont parlé juste avant, n'allez pas seul en action. À minima, vous y allez avec une personne qui sera votre binôme. Et dans la mesure du possible, on vous encourage très très fort à y aller avec un groupe de personnes en qui vous avez un minimum de confiance. Nous, on appellera ça un groupe affinitaire. Ça va vous servir à vous organiser, à vous sécuriser, à décompresser. Et quand vous avez ce groupe-là, il y a plein de questions. Enfin, vraiment, prenez un temps avant l'action pour vous poser des questions. C'est quoi vos motivations et vos expériences? Pourquoi vous voulez y participer? Partagez vos peurs, partagez vos limites. Discutez de comment vous vous sentez face à la répression. Qu'est-ce que ça vous fait d'être face, je sais pas, à des policiers et des policières, par exemple, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire en cas d'arrestation? Vous pouvez aussi discuter entre vous des aspects plus organisationnels. Vérifiez que tout le monde dans le groupe a au moins un ou une binôme. Réfléchissez à comment vous voulez prendre des décisions, parce que des fois, dans l'urgence, on se met à paniquer et c'est hyper galère. Peut-être que vous avez des rôles à vous répartir. Vous pouvez lister ensemble le matériel dont vous avez besoin. Vous pouvez réfléchir s'il y a des situations dans lesquelles votre groupe pourrait amener à se scinder. Plus on prévoit ce genre de choses et plus c'est facilement gérable le jour J. Ensuite, au sein toujours de ce petit groupe, n'hésitez pas à partager entre vous les infos nécessaires. Par exemple, personne contacte si vous avez des traitements médicaux, éventuellement les garanties de représentation. Vous pouvez vous partager des infos sur est-ce que, par exemple, l'un ou l'une de vous a des enfants qui sont à l'espace bambin, etc. etc. C'est chouette de vous donner un point de rendez-vous précis avant de partir en action et un point de rendez-vous précis après pour vous retrouver, j'en parlerai juste après. Et évidemment, prenez le temps de bien vérifier que tout le monde a capté les informations, les dernières infos, etc. Pour information, pour les personnes qui viennent seules, il y a des ateliers de création de groupes affinitaires qui vont être organisés sur le camp de Mel le vendredi soir et le samedi matin. On vous encourage très vivement à y aller et il y aura aussi sur place des brochures que vous pourrez trouver pour vous aider à vous organiser en tant que groupe affinitaire, si vous n'avez pas pris des notes assez rapidement de tout ce que je viens de dire. Pendant l'action, toujours pareil, hein, prenons soin de nous, soyons solidaires, respectons nos limites, essayons dans la mesure du possible de garder notre calme, de suivre les informations données par les mégaphones, etc. etc. Au retour de l'action, c'est important de prendre le temps de se retrouver entre personnes de confiance, par exemple votre groupe affinitaire, pour parler de ce qui s'est passé. Et donc là, vous pouvez trouver un espace dans lequel vous vous sentez en sécurité et dans lequel chacun et chacune va pouvoir parler de son expérience et de ses ressentis. Comment vous avez fonctionné, les trucs chouettes, les trucs moins chouettes. Peut-être que vous voulez discuter de comment vous souhaitez vous soutenir par la suite, etc. Enfin, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que s'il y a une situation qui dépasse ce que le groupe peut prendre en charge, c'est complètement OK et encouragé d'aller chercher du soutien extérieur, notamment auprès des différentes composantes de la base arrière. Il y a les numéros de téléphone qui seront mis dans les brochures, il y aura des équipes sur place, sollicitez-les. Ensuite, le groupe de soins psychologiques et émotionnels va mettre à disposition plusieurs brochures qui visent vraiment à plus se préparer. Vous les trouverez notamment au point d'accueil. On vous encourage très très fortement à les lire avant de partir en action. Les brochures, il y en a 3. Une brochure un peu générale d'autodéfense psychologique et émotionnelle avec des conseils pour se préparer, des informations sur les impacts psychologiques et émotionnels de la violence, etc., des recommandations. Ensuite, une deuxième brochure sur comment soutenir une personne qui est en détresse. Ça détaille en gros les comportements à avoir et à proscrire, etc. Et il y a une troisième brochure qui est dédiée aux blessures et aux traumatismes. Et là, l'idée, c'est d'avoir des bases sur c'est quoi un état de choc, c'est quoi un syndrome de stress post-traumatique, comment on reconnaît ses symptômes, qu'est-ce qu'on peut y faire, etc., etc. Ces brochures, c'est pas pour les gens qui adorent la psychologie, c'est vraiment pour tout le monde. Encore une fois, c'est vraiment un enjeu politique de se réapproprier tout ça, de comprendre ce qu'on met derrière les mots et surtout de voir quels comportements peuvent être aidants et pas aidants. Vu qu'on a conscience que les brochures et la prévention, c'est bien, mais que c'est pas suffisant, il y aura aussi un dispositif sur place, avec certains espaces. Il y aura un espace physique sur le camp de Mel pour se poser et vous pourrez trouver là-bas des personnes qui proposent de l'écoute active. Ce sera à partir du samedi après-midi et tout le dimanche. Ce sera à l'espace cantine du camp de Mel. Il y aura un infokiosque, il y aura tout un espace un peu pipou pour se poser et surtout des personnes qui auront un badge vert et qui seront vraiment là pour faire de l'écoute active, discuter avec vous, etc. N'hésitez pas à y aller quand vous voulez. Ensuite, il y a un deuxième lieu, ce sera une infirmerie psychologique qui sera un peu plus à l'écart de la vie collective du camp. C'est un lieu qui vise à proposer du soutien aux personnes qui sont en état de choc, bouleversées, sidérées, paniquées. Sur place, il y aura des personnes qui sont spécifiquement formées à soutenir des personnes qui vivent ça, qui seront là. Le lieu, il sera ouvert dès le samedi après-midi et tout le dimanche. N'hésitez pas à y aller s'il y a besoin. On aura également un numéro spécifique de l'équipe psycho-émotionnelle. C'est pas une ligne d'écoute, mais ça sera un moyen d'obtenir de l'information, de signaler des besoins. Elle marchera le samedi après-midi et tout le dimanche. Et enfin, étant donné que le groupe a conscience que, en fait, des fois, les conséquences de situations à haut stress, elles peuvent mettre du temps à se manifester ou alors ça peut demander du temps de vouloir demander de l'aide. Et du coup, il y a un mail qui sera communiqué sur le camp, dans les brochures, pour les personnes qui voudraient du soutien à plus long terme. On a un ensemble de personnes qui seront disponibles pour faire un suivi avec des personnes qui, après le week-end, auraient besoin d'aide. L'objectif, c'est vraiment que personne ne se retrouve complètement seul avec ses difficultés. Une dernière chose, face à des événements violents, que ce soit direct ou indirect, des événements qui génèrent beaucoup de stress, le corps et l'esprit peuvent réagir de plein de manières. On peut être avec des stratégies d'évitement, des émotions qui sont décuplées. On peut revivre l'expérience et pas vouloir s'en défaire. Toutes ces réactions, elles sont normales face à des événements qui sont anormaux et qui sont super stressants. Le corps a besoin d'absorber ce qui s'est passé et tout ça, ça remplit une fonction qui est de traiter l'expérience et se protéger. Quelquefois, ces réactions, elles vont surgir bien longtemps après les événements, quelques semaines, voire même des années plus tard. C'est pour ça que c'est hyper important d'apprendre à identifier ces réactions, comprendre comment prendre soin de soi et de nous et aller voir quand on a, enfin, du soutien extérieur quand on en a besoin. Donc, on vous encourage vraiment à nous solliciter si vous en éprouvez le besoin, quoi. Voilà.
Merci beaucoup. Du coup, peut-être simplement quelques mots pour des composantes de la base arrière qui peuvent pas être là aujourd'hui et qui ont personne pour s'exprimer, qui avaient quelques petites infos à faire passer. Il y a notamment le dispositif RFS, c'est-à-dire Riot Fight Sexism, qui est le dispositif contre les violences sexistes et sexuelles et qui vise à diffuser une culture féministe et réduire les risques d'agression sexiste et sexuelle pendant les festivités de ce week-end de mobilisation. De la prévention des violences à la réaction en cas d'agression au soutien de victimes, des personnes se sont formées à ce dispositif-là durant toute la France pour cette occasion. Pendant tout le week-end, l'idée, c'est que si vous êtes témoin d'une agression ou d'un comportement problématique ou que vous-même, vous êtes la victime de ce comportement, vous pouvez le signaler à l'équipe RFS. Elle sera joignable par divers moyens pendant tout le week-end, notamment avec un numéro d'urgence qu'on va vous envoyer par écrit et qui est aussi disponible dans le livret qu'on a mentionné. Il y aura aussi une permanence du dispositif RFS. Où vous pourrez lire des brochures, discuter avec les personnes ou même trouver de l'aide si vous en avez besoin. Et un peu partout sur l'événement, il y aura des équipes mobiles avec brassards dorés et guirlandes lumineuses pour veiller, écouter et gérer s'il y a un problème. Il ne faut pas hésiter à les solliciter, ces personnes-là. Ces personnes voulaient aussi que je transmette ce message-là, que c'est de notre responsabilité collective de veiller à ce que des agressions n'arrivent plus, que les violences sexistes et sexuelles, c'est comme les bassines, on n'en veut pas. Osez dire, osez interpeller pendant la manif et les événements à Mel. Soyez attentifs à vos potes et à vos copains, qu'ils soient de potentielles victimes ou agresseurs. Du coup, voilà, le dispositif RFS sera aussi disponible partout, à tout moment, et vous pourrez les joindre, bien sûr. Et l'idée, c'est que on soit toutes et tous vigilantes ensemble. Et encore un petit mot d'un autre composante dont on vous a parlé très rapidement, mais qui est hyper précieuse aussi et nouvelle dans les manifestations de bassines, c'est la garderie autogérée qui s'appelle la bassine à bulles. Elle est là pour permettre à tout le monde, y compris les parents, de participer à la manifestation du 25 et du 26 mars. Et donc, elle propose un accueil d'enfants du samedi, du coup, à partir du samedi de 8h à 18h. Et ensuite, le dimanche, un espace autogéré de 10h à 17h. Ça sera à Mel, dans le centre-ville de la ville de Mel, que ça se passera. Et on vous communique bientôt les manières d'y accéder. Alors, comment ça se passe, cette garderie? Il faut s'inscrire. On vous envoie le lien d'inscription, il est aussi dans le livret dont on vous a parlé. Hop. Et l'idée, c'est que vous pouvez, en suivant ce lien, vous inscrire pour inscrire votre enfant et vous inscrire aussi si vous avez envie d'aider. Sur place, le jour J, l'idée, c'est que les parents qui laissent leur enfant à la bassine à bulles auront à remplir une fiche avec quelques informations, notamment le numéro des personnes à contacter en cas de problème, les éventuelles allergies de l'enfant, etc. Vous pourrez alors confier vos enfants aux animateurs RIS de la bulle et revenir les chercher à la fin de la manifestation. Évidemment, il y aura un numéro et cette garderie autogérée et la garderie en tant que telle sera joignable durant toute l'action. Alors, qui est accueilli dans cette garderie? Tous les enfants, dans la limite de la capacité d'accueil du lieu et du nombre d'adultes accueillants présents. Donc, l'idée, c'est que si vous voulez même participer et du coup aider, c'est possible aussi. Et c'est mieux de s'inscrire et de prévenir pour que tout ça, ça soit possible. Si les enfants ne sont pas autonomes, c'est possible aussi de venir accompagner de son enfant. C'est gratuit, tout ça est fait bénévolement, il y a des possibilités de dons à prix libre. Et pour contacter, il y a déjà un mail qu'on vous remet aussi et le formulaire. Peut-être aussi un petit mot du pôle Andy des validistes. Du coup, là, c'était la garderie, RAPS et maintenant Andy des validistes. C'est qu'on a eu aussi des retours de personnes à potentiellement qui avaient des mobilités réduites et qui n'avaient pas pu accéder au camp de Sainte-Soline ou qui avaient éprouvé des difficultés lors de la dernière manifestation de Bassine. Du coup, il y a un pôle qui a été mis en place afin d'envisager plus facilement la venue de personnes qui seraient à mobilité réduite ou qui souffriraient qui auraient des handicaps. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter ce pôle-là. Pareillement, on vous remet tous les détails là dans le chat. Et l'idée, c'est d'avoir de pouvoir vous renseigner et aussi diffuser ce numéro et ce mail-là pour si vous avez besoin d'informations sur l'accessibilité. Il y aura un espace au calme et au chaud pour que des personnes en situation de handicap puissent se reposer, discuter ou penser sur le moment des besoins particuliers, des choses à mettre en place. L'idée, c'est aussi que l'accessibilité soit facilitée par un parking qui sera en cœur de site et un espace dédié sur le camping et une équipe dispo pour répondre aux demandes en amont sur place et à la suite. Cette équipe, elle sera symbolisée par un brassard à paillettes bleues. Évidemment, là, on vous balance plein d'infos. On a conscience que c'est très dense, mais pas de souci. Tout ça, ça sera disponible aussi sur site. Il y aura des personnes qui seront là pour vous donner ces infos-là. Il y a aussi plein de brochures qui vous seront accessibles. Globalement, un peu pour conclure, et n'hésitez pas si j'ai oublié des choses, les personnes qui sont là aussi, la base arrière, c'est vraiment toute cette composante du soin dans laquelle on inclut aussi, nous, la Legal Team. Il y aura un accueil de cette base arrière à l'entrée du site, à Mel notamment, où vous pourrez retrouver toutes les informations qu'on vous a données là, avec des brochures, des papiers, avec les numéros utiles, comme toutes les informations sur les avocats, avocates, les différents numéros médicaux, accessibilité, soutien psy et émotionnel si besoin, et toutes les brochures dont on vous a parlé rapidement durant ce brief-là.
Voilà, c'était donc une présentation de la base arrière du collectif Bassine Non Merci. Une première donc manifestation est prévue dès demain matin, samedi, à Mel, dans les Deux-Sèvres. On vous redonne le site internet de la mobilisation, bassinenonmerci.fr. Prenez soin de vous, nos Bassaranes. Prochain rendez-vous avec les amis d'Orwell sur Radio Libertaire, ce sera dans 2 semaines.